France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge féminine de France. Émission préparée et présentée par Sophie Elvassette. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous parler des femmes, de la guerre et de la paix. Pour traiter ce vaste sujet, je reçois deux invités. Tout d'abord Liliane Mirville, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Bonjour Liliane.
Bonjour Sophie.
Ma seconde invitée est Isabelle Henny, présidente de la Commission nationale des droits des femmes de la Grande Loge féminine de France. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Alors première question Liliane, pourquoi ce sujet « Femmes, guerre et paix » ?
Comme vous le savez, nous sommes en mars. Ce mois est un mois très important pour nous toutes, les femmes, les filles, pour la défense de nos droits, le respect de notre dignité et de notre intégrité. Dans un monde marqué par les nombreux conflits, les guerres, les femmes demeurent les actrices essentielles de la recherche de la paix. C'est pourquoi j'ai souhaité que cette émission sur France Culture soit consacrée à ce thème « Femmes, guerre et paix ». Sur tous les continents, les femmes sont particulièrement exposées aux violences comme armes de guerre. Elles sont les premières victimes civiles des conflits. Quelques données chiffrées. Il faut savoir que la proportion des femmes tuées dans des conflits armés a doublé. Humainement, nous ne pouvons accepter. La participation des femmes au processus de paix reste hélas inférieure à 10% en moyenne. Sur les 31 accords de paix conclus en 2023, seuls 8 accords, soit 26%, faisaient expressément référence aux femmes, aux filles et ou à la violence sexuelle. En tant que franc-maçonne de la Grande Loge féminine de France, nous ne pouvons rester indifférentes au sort des femmes dans le monde.
Alors pour vous Liliane, qu'est-ce que c'est la paix ?
C'est quoi la paix ? La paix, c'est une insaisissable définition. Comment en parler ? Quand tout s'embrasse autour de nous, faut-il la montrer, l'écrire ? Pour moi, la paix, c'est la sortie du labyrinthe de la guerre. C'est la fin de la guerre avec quelque chose en plus. La paix comme fin et commencement à la fois. Alors, aujourd'hui, je m'interroge encore. Qu'est-ce que donc la paix ? Et quels sont les visages de la guerre ?
Et pour vous, Isabelle, alors, qu'est-ce que c'est la guerre ?
La guerre, c'est terrible. Les guerres, elles apportent la destruction, c'est le retour à la domination sous toutes ses formes. Et les guerres, elles s'attaquent toujours aux droits des femmes. Aujourd'hui, les guerres modernes ne touchent pas que les militaires, mais de plus en plus les civils. On estime que 70% des victimes parmi les non-combattants sont des femmes et des enfants. Liliane l'a dit en introduction tout à l'heure. Mais les guerres et les conflits armés n'ont pas le même impact sur les hommes et sur les femmes. Avant tout, je voudrais dire que quand on parle des femmes et de la guerre, on présente toujours les femmes comme une catégorie de personnes particulièrement vulnérables et victimes. C'est vrai, mais les femmes ne sont pas vulnérables parce qu'elles sont femmes, elles sont vulnérables parce qu'elles sont exposées à des risques qui sont différents de ceux des hommes. Parce que les femmes, elles ne sont pas par définition vulnérables. Selon l'ONU Femmes, en 2023, le nombre de cas de violences sexuelles liées au conflit a augmenté de 50%.
Pouvez-vous préciser quelles sont les violences faites aux femmes en temps de guerre ?
Alors, en temps de guerre, il y a plusieurs sortes de violences. Il y a la disparition des proches déjà, parce que les hommes, les pères, les fils ne sont pas là. Et selon les cultures, sans les hommes, les femmes elles ne peuvent pas se déplacer. Elles n'ont aucun droit. Du coup, elles sont encore plus vulnérables et elles sont en danger. Encore plus démunies que quand il n'y a pas de conflit. Il y a aussi les déplacements. C'est aussi une violence parce qu'il y a des millions de personnes qui sont déracinées en temps de guerre. Et ce sont les femmes qui ont en charge la responsabilité des familles. Alors il y a la faim, la grande pauvreté et les problèmes de santé qui sont infinis. Et puis, il y a les violences sexuelles. Ce sont les violences les plus courantes que les femmes subissent. Il y a les viols collectifs, en public, devant les familles, les mutilations, les tortures, les grossesses forcées qui sont menées à terme, le mariage forcé, la prostitution, l'esclavage sexuel. On atteint un paroxysme d'atrocité, ça laisse sans voix. Et ces agressions sexuelles, elles ont un objectif bien défini. Elles servent à détruire les populations. Le but, c'est de détruire tout le tissu social et de procéder à une épuration ethnique. Et alors, pour en arriver là, tout est permis et tout est impuni. En fait, en temps de conflit armé, le corps des femmes, c'est un champ de bataille. Et le viol, c'est une arme de guerre.
Mais c'est effrayant tout ça.
Oui, c'est effrayant. Alors, la résolution 1325 de l'ONU, elle reconnaît le viol et les autres formes de violence sexuelle comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Et pourtant, le viol, en temps de guerre, c'est le crime le plus impuni au monde. Les violences sexuelles, on les ignore dans les négociations de paix. Du coup, les femmes, les filles, c'est un butin. Et le viol, c'est gratuit. C'est une arme de guerre qui coûte rien.
Pourtant, il ne manque pas de lois, de résolutions pour protéger les femmes et contribuer à la paix.
Alors oui, il y a des textes. Je pense, principalement, il y a trois engagements qui sont pris par les institutions internationales. La résolution donc 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été écrite en 2000, elle a reconnu l'importance de l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles. Cette résolution, elle a vu le jour à la suite des atrocités, des guerres en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Il y a aussi la déclaration et le programme d'action de Pékin. C'est un document clé qui oriente la lutte globale contre les contraintes et les obstacles à l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Et puis, il y a la CEDAW. La CEDAW, c'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est un texte qu'on connaît bien à la Grande Loge féminine de France parce que, en son temps, on a rédigé un rapport alternatif. Alors oui, Sophie, les textes, ils existent, ils sont rédigés, ils sont votés par la plupart des pays. Donc on peut dire que le monde a des outils pour construire la paix. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'il en a la volonté ? Ça, c'est autre chose. Parce que, bon, quand on regarde autour de nous, il y a des conflits partout. On est entouré de violences sous toutes leurs formes. Et les femmes, elles sont les premières touchées.
Y a-t-il, en 2025, une prise de conscience des femmes et de la communauté internationale ?
Alors moi, ce que je trouve remarquable, c'est que devant cette immense détresse dont on vient de parler, les femmes, elles se battent. Elles s'unissent et elles construisent de la sororité. C'est-à-dire qu'elles appellent à être ensemble et elles partagent une souffrance commune, un destin commun qui est le leur, celui d'être des femmes dont l'histoire est singulière. Mais je pense que nos sociétés, elles cultivent la violence et l'agressivité. Elles ne cultivent pas la sororité. Pourtant, moi, j'ai envie de croire que les garçons ne naissent pas violents, pas davantage que les filles, elles seraient soumises. Par contre, ce que je pense, c'est que l'ensemble des injonctions sociales détermine une partie de nos comportements. Je pense qu'il faudrait une révolution culturelle et sociale pour que les sociétés, elles prennent conscience de ce que sont les violences faites aux femmes. Et que ces violences, elles soient punies, réellement, combattues de manière efficace, pour aller vers la réconciliation et vers la paix. Parce qu'il y a les guerres, bien sûr, mais quand on regarde la domination masculine, elle agit sous d'autres formes. On voit le nombre de féminicides par an, ou le procès de Mazan, c'est des exemples. L'oppression des femmes, elle se rencontre aussi dans nos sociétés démocratiques pacifiées. Inégalité de salaire, plafond de verre, répartition des tâches. Tant qu'il y a une domination, tant qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté. Pour que ça change, il faut une volonté politique, des moyens et des négociations avec la présence des femmes. Il faut que le droit soit plus fort que la violence et que l'impunité, eh bien, elle disparaisse.
Alors pour vous, Liliane, la présence des femmes n'est-elle pas incontournable aujourd'hui dans les processus de paix ?
Oui, ma chère Sophie, je dirais qu'elles sont incontournables, les femmes. Elles doivent être au cœur de la paix. C'est leur droit fondamental. Les femmes ont toujours joué un rôle clé dans la médiation et la réconciliation au sein des familles, des communautés ou à des niveaux plus institutionnels. Militantes, elles sont à l'avant-garde des mouvements de paix. Leurs contributions dans les contextes de guerre sont multiples. Elles ont un rôle économique, social, militaire et politique. Et pourtant, malheureusement, elles restent à la marge dans les négociations de paix, comme je l'ai évoqué dans mon introduction. Elles doivent être absolument participantes, actrices de leur avenir. Elles ne sont pas des victimes.
Et pour vous, Isabelle, alors ? Tout ça, c'est un constat bien pessimiste. Est-ce qu'il n'y a pas une lueur d'espoir ?
Je sais pas. Le fait est que toutes les institutions sont organisées de manière patriarcale. Mais imaginons, si nous atteignions un jour une proportion de femmes d'au moins 30% dans la politique étrangère mondiale, des diplomates jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, ça pourrait changer la politique de sécurité et du coup, ça pourrait changer le monde. Enfin, ça c'est mon espoir. Mais pour être aux tables des négociations, il faut que les femmes soient visibles, qu'on les écoute dans la cité, qu'elles participent complètement dans les sphères économiques, sociales et politiques. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'actualité, c'est plutôt obscur. Mais je crois qu'on peut avoir de l'espoir. On a bien réussi à construire la paix après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'espère de tout mon cœur qu'on va pouvoir continuer.
Bien, après cet état des lieux qui est vraiment assez sombre, Liliane, quelles sont les pistes à privilégier pour construire la paix ?
Notre obédience, Sophie, promeut des pistes à privilégier pour construire la paix dans le monde. Si la Grande Loge féminine de France prend acte de ces constats affligeants dans les conflits, elle ne peut pas non plus se taire face aux horreurs infligées à toutes les femmes du monde, oubliées, menacées, violentées dans leur intégrité physique et morale, tout simplement menacées dans leur vie. Notre obédience défend avec force et vigueur l'application de ces valeurs humanistes, c'est notre ADN. Alors, quelles sont-elles ? Tout d'abord, je souhaite rappeler que notre devise, qui est une devise universelle, c'est celle de la République, liberté, égalité, fraternité, et je rajouterai la laïcité. La laïcité, cette liberté de conscience qui est fondamentale, dont nous allons fêter cette année les 120 ans le 9 décembre 2025. Nos valeurs humanistes sont plurielles, inscrites dans nos engagements de francs-maçons. Tout d'abord, nous proclamons haut et fort notre fidélité à la patrie, ainsi que notre indéfectible attachement aux principes de liberté, de tolérance, de laïcité, de respect des autres et de soi-même. Nous refusons toute discrimination contre une personne ou un groupe de personnes en prétextant de leur origine, de leur appartenance à une ethnie, à une religion déterminée. Nous œuvrons à l'accomplissement et respect des droits des femmes, condition indispensable de l'universalité des droits humains. Plus que jamais, la Grande Loge féminine de France continue son œuvre de défense des droits des femmes, leur émancipation individuelle et collective dans le monde. Certes, c'est une tâche très difficile qui est née en même temps que la création, le 21 octobre 1945, d'une franc-maçonnerie spécifiquement féminine, l'Union maçonnique féminine de France, dont nous fêterons avec une très grande joie ses 80 ans cette année. L'Union maçonnique féminine de France prendra le nom de Grande Loge féminine de France le 22 septembre 1952. Et puis je dirais que notre obédience apporte son soutien inconditionnel aux associations qui œuvrent pour la défense des droits des femmes, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs.
Bien, nous arrivons au terme de cette émission. Isabelle, une conclusion pour celles qui souhaitent nous rejoindre ?
Alors, je pense qu'il n'y a que l'égalité des droits qui peut rétablir la confiance entre les États, entre les hommes et les femmes. Je dirais que notre méthode maçonnique, elle nous permet de prendre conscience de soi, de déconstruire les idées toutes faites. On dit volontiers que c'est une école de l'éveil qui permet la recherche et la rencontre avec soi-même. C'est vrai, notre regard change, s'ouvre au monde autrement. Ce travail maçonnique nous apprend le discernement, la maîtrise de nos impulsions. Notre outil, c'est la raison. Et puis, comme l'a dit Liliane, nous sommes une obédiente exclusivement féminine. C'est un atout de pouvoir réfléchir entre femmes avec notre propre regard. Nous construisons, nous aussi, une sororité de fait, des solidarités qui nous lient dans nos différences. C'est un mot sororité auquel nous sommes très attachés à la Commission des droits des femmes, car il dit les combats et la force des liens qui unit les femmes, en particulier quand elles sont en lutte.
Liliane, le dernier mot vous appartient.
En termes de conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, notre combat authentique, c'est celui de la démocratie, la justice, la liberté, la tolérance, le droit, le respect des droits humains. C'est le non-respect de ces valeurs qui est ici en permanence dénoncé. La paix doit être un engagement qui se pratique tous les jours. C'est une relation de bien vivre, ensemble, solide et durable, basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence entre humains. Elle est fondée sur l'expression du cœur que sur la raison. Nous réaffirmons l'importance majeure des femmes et des jeunes dans la construction de la paix. La paix, c'est un choix de vie, à la fois individuel, collectif, économique et politique. Certes, il n'y a pas de formule magique à adopter par les pays en guerre. Mais la paix véritable doit être le produit de conciliation de nombreuses nations et la somme de nombreux actes. Elle doit être dynamique et évoluer pour relever le défi de chaque nouvelle génération. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place pour le 21 septembre 2025 une marche pour la paix, le jour de la fête internationale de la paix. Elle est organisée par la Grande Loge féminine de France, par toutes les femmes du monde. Et si, hélas, nous constatons de graves manquements à l'égalité des femmes et des hommes, ce sujet, femmes, guerre et paix, nous donne, à nous, francs-maçons de la Grande Loge féminine de France, l'espoir d'un changement pour construire ensemble une humanité meilleure. Et je terminerai par une citation de Gandhi, « Il n'y a pas de chemin vers la paix est un chemin ».
Merci à vous deux d'avoir répondu à mon invitation.
Merci.
Je recevais aujourd'hui Liliane Mirville, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, et Isabelle Henny, présidente de la Commission nationale des droits des femmes de la Grande Loge féminine de France. Merci à Jean-Christophe Francis qui réalise aujourd'hui cette émission, à Dalia qui est à la technique et à Claire Poinsignon pour la préparation. Merci surtout à vous qui nous avez écoutés et à bientôt pour une prochaine émission. Bon dimanche.